Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
Je sais que j'ai eu le cas quand je me suis lancée. On m'a dit « Ah, mais il y a déjà telle personne qui est une conciergerie. » Je disais « Mais oui, non, cette personne-là s'occupe que du ménage et de la remise des clés. Moi, c'est pas du tout ça que je propose. » Voilà, c'est vraiment bien se renseigner aussi sur les différents types de prestations qui peuvent intéresser les propriétaires. Est-ce que c'est juste délégué le ménage et les remises de clés, ou alors est-ce que c'est vraiment tout délégué?
Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Je suis Laura, toulousaine installée dans le Lot depuis 3 ans et propriétaire du gîte de groupe Le Moulin de Bernard. J'en avais marre de n'avoir personne avec qui parler de mes galères administratives, de passer des jours entiers à faire du ménage et ne croiser personne. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels comme moi. Équipée de mon micro et d'un casque sur la tête, j'enregistre les témoignages d'hôtes passionnés et passionnant. Mais ce n'est pas tout. Cette année encore, j'interview également des experts qui partagent sans limite leurs connaissances et conseils avec vous. Et parce que jamais 203, cette année ce sont 3 épisodes par mois, avec la découverte d'une marque, d'un prestataire ou d'une initiative. Qui sait, ce sera peut-être votre prochain partenaire. Comme toujours, vous retrouvez les coordonnées de mes invités dans les notes de l'épisode. Enfin, j'ai énormément de plaisir à lire tous vos super messages et avis que vous me laissez sur Apple Podcasts ou sur Instagram. Alors merci à vous de faire grandir le podcast et surtout, n'arrêtez pas! Vous me demandez souvent où je puise toute mon énergie et je dois vous avouer mon secret. C'est tout simplement vous, vos retours, vos partages et votre soutien. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour Thaïs.
Bonjour Laura.
Merci d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir et surtout de présenter la conciergerie des Trois Villes Sœurs. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Thaïs Alcala, j'ai 26 ans et comme tu l'as très bien dit, je suis la gérante de la conciergerie des Trois Villes Sœurs. Alors, peut-être très rapidement pour expliquer ce que c'est les Trois Villes Sœurs, parce que je pense que les personnes qui nous écoutent vont peut-être pas comprendre ce que c'est. Mmh. C'est l'appellation qu'on a là où j'habite, et je vous expliquerai après, des trois villes donc, qui sont Le Tréport, Mers-les-Bains et Eu, qui sont trois villes qui se touchent. Et donc, cet ensemble de trois villes s'appelle les Trois Villes Sœurs.
Excellent. Donc, c'est entre la Côte d'Opale et la Normandie, si je ne me trompe pas.
Exactement, on est vraiment entre la baie de Somme et le tout début de la Seine-Maritime, de la Haute-Normandie.
D'accord, parfait. Donc c'est là où tu as grandi. J'ai vu ensuite tu as passé, tu as fait des études, notamment un diplôme en commerce international, puis tu es revenu dans le coin pour fonder la conciergerie. Comment c'est venu l'idée ?
Tout à fait. Alors moi, en fait, donc j'ai fait des études en commerce international. J'ai travaillé pour des grandes maisons de luxe et de prêt-à-porter entre la France et l'étranger. Durant mon dernier emploi, plusieurs choses se sont passées. Mon conjoint a acheté une petite maison là où on habitait quand on était jeunes tous les deux, donc à Eu, en Haute-Normandie, et il voulait la mettre en location saisonnière. Et c'est vrai que lui étant à Amiens et moi à Paris, on s'est rapidement dit, mais mince, comment on va faire pour gérer tout ça? C'est vrai que ça ne nous semblait pas très pratique et on n'a pas trouvé forcément d'entreprise qui correspondait vraiment à nos attentes, à nos besoins. Et en parallèle, des amis sont revenus vivre de Lille jusqu'ici en Haute-Normandie. Et pareil, ils avaient plusieurs logements, dont quelques-uns qui souhaitaient mettre en location saisonnière, le reste en location à l'année. Et ils n'avaient pas l'opportunité de le faire parce que justement, pas d'entreprise qui correspondait vraiment à leurs besoins. Donc de là est venue l'idée de la conciergerie des Trois-Villes-Sœurs.
Tu l'as peut-être dit, c'était il y a combien de temps ?
Et moi, j'ai commencé en novembre de l'année dernière. Donc ça fait un peu plus de 6 mois.
Génial, d'accord. Et donc effectivement, tu as pu d'abord identifier un besoin et c'est ce qui t'a permis de créer la conciergerie. Oui. Tu connaissais un petit peu le milieu, tu étais familière avec les gîtes et les chambres d'hôtes ?
Alors oui, tout à fait. Moi, j'étais surtout familière en fait avec les locations Airbnb, Booking et aussi les hôtels. Chambre d'hôte, j'ai jamais eu l'occasion de faire vraiment chez l'habitant. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'étais familière, oui et non. C'est-à-dire que j'avais vu passer des grosses entreprises de conciergerie qui sont un peu présentes partout en France. J'avais eu l'occasion de séjourner à l'étranger via des conciergeries, etc. Mais voilà, j'ai dû vraiment me renseigner sur tout ça avant de me lancer, ça c'est sûr.
Tu trouvais de l'information facilement ?
Alors non, c'est ça qui est un peu, je pense que les personnes qui nous écoutent et qui ont potentiellement l'idée de se lancer dans la conciergerie, c'est vrai que les informations ne sont pas très accessibles. Pourquoi ? Parce que c'est des nouveaux métiers en fait. Voilà, ça commence petit à petit à se fournir en informations, mais ça a été très compliqué. Il a fallu passer du temps justement sur... essayer d'appeler des entreprises, se renseigner sur Internet, c'est important.
Est-ce qu'il faut un diplôme pour ouvrir une conciergerie ?
Alors, je t'avoue que je ne me suis pas forcément beaucoup posé la question parce que moi, ayant un diplôme de commerce, en commerce international et en commerce tout court, c'est vrai que je pouvais faire ce genre de métier sans trop de soucis, mais il faut se renseigner. Je me demande s'il ne faut pas quand même avoir un minimum... de diplôme pour pouvoir se lancer. Après, rien n'empêche de se lancer en auto-entrepreneur. Je ne suis pas sûre qu'ils demandent forcément des diplômes particuliers. Il faut se renseigner. C'est vrai que moi, de mon côté, je ne me suis pas trop posé la question parce que je savais que j'allais pouvoir travailler dans ce secteur qui, quand même, se regrouper par rapport aux études que j'avais faites. Mais voilà, il faut regarder.
Oui, je pense que c'est peut-être pas nécessaire en soi pour créer l'entreprise. C'est juste pour avoir les bases et les bons bagages parce qu'il y a de la gestion, quoi. Pour tout créateur d'entreprise, de toute façon, quel que soit le domaine, histoire d'être plus à l'aise avec sa future activité.
Oui, tout à fait, parce que surtout, c'est très important de l'avoir en tête. Il y a une grande partie comptabilité, une gestion des objectifs, des établissements prévisionnels. Donc, il faut quand même avoir un minimum de connaissances derrière ou du moins être très bien accompagné pour se lancer dans le projet.
On m'avait demandé s'il fallait, le numéro des agents immobiliers. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es renseigné aussi ?
Alors oui, tout à fait, ça je me suis renseignée, forcément tout ce qui est d'un point de vue légal, c'est aussi très important de se renseigner avant de se lancer. Donc pour la conciergerie, on n'a pas forcément besoin de la carte T de transaction ou la carte G de gestion qui sont réservées aux agents immobiliers à partir du moment où on ne perçoit pas les revenus des propriétaires. C'est-à-dire que moi avec ma conciergerie, ce sont les propriétaires qui perçoivent leurs revenus et après moi je leur établis une facture sur les prestations. Mais par contre, si tes conciergeries souhaitent recevoir le montant des locations et après redistribuer aux propriétaires, là, il faut être en possession d'une carte immobilière.
D'accord. Donc, c'est peut-être sur les aspects d'encaissement des revenus, savoir si c'est en direct ou si c'est reversé après aux clients.
C'est ça, tout à fait.
D'accord, très bien. Est-ce que tu as formé une équipe autour de toi ou tu travailles seule ?
Alors, moi, je me suis lancée seule. J'ai formé une équipe, entre guillemets, parce que c'est des auto-entrepreneurs, mais je travaille avec des personnes qui sont en statut auto-entrepreneur pour tout ce qui est de la gestion du ménage et du linge. Ça, c'est notre petite équipe à nous. On a commencé avec une, puis deux, et puis actuellement, nous sommes 4-5. C'est vrai que c'est chouette parce que quand on se lance, on travaille seul de chez soi. Au moins, on a quand même une petite équipe avec qui on peut débriefer, avec qui on peut brainstormer. C'est vrai que j'aime beaucoup les impliquer aussi sur les logements, le choix des logements, la gestion, des petites idées qu'elles pourraient avoir pour les logements, parce que c'est elles qui sont en front office. Quand il s'agit de faire l'entretien, c'est elles qui sont sur place et qui peuvent se rendre compte concrètement de ce qui pourrait manquer ou ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer encore plus les logements. Donc voilà, c'est ça ma petite équipe, même si elles ne sont pas salariées, elles ne font pas réellement partie de la conciergerie des 3000 sœurs, mais par contre, on travaille ensemble au quotidien.
C'est génial. Combien d'établissements tu as en gestion aujourd'hui ?
Alors actuellement, j'en ai 21. J'en ai quelques-uns qui arrivent d'ici cet été également, qui sont en train d'être terminés. Les travaux sont en train d'être finis. Donc voilà, on sera à une vingtaine de logements d'ici cet été.
Et ça fait déjà, hein ?
Et ça fait déjà, tout à fait. Je t'avoue que j'ai été assez contente et assez agréablement surprise. Là, aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est de pouvoir vraiment sélectionner les logements que j'ai en gestion. C'est-à-dire que forcément, quand on se lance, d'un point de vue comptable, on est obligé d'un peu accepter ce qui vient. Mais voilà, avec le temps, on peut s'affiner, on sait maintenant aussi, avec un peu de recul, ce qui fonctionne mieux et ce qui fonctionne moins bien. Donc, ça me permet de vraiment sélectionner les logements que j'ai en gestion.
Et donc, tu justement, cette sélection, c'est des logements qui sont peut-être plus haut de gamme, plutôt ciblés famille. Comment tu choisis ?
C'est ça. Alors, moi, j'ai plusieurs critères. Déjà, la localisation. C'est vrai que des logements qui sont plus en bord de mer ou dans un coin de campagne plus attractif ou dans un environnement moins résidentiel, par exemple.
Oui.
Ça, c'est plus intéressant parce que les gens aiment venir d'un côté se mettre au vert, être au calme, et d'un autre côté être à proximité de la mer,
de sites touristiques.
Commerces, ouais. Exactement. Mm-hmm. D'une part. D'autre part, tout ce qui est, quand même, hein, on ne va pas se mentir, la décoration, l'aménagement, les ameublements, qui est une décoration, une identité dans les logements. C'est ça aussi, quand nous, on recherche des logements pour séjourner, on aime qu'il y ait une âme, une identité. Donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis, quand même, très important, le feeling avec les propriétaires. Et ça, c'est vraiment le côté humain de l'entreprise, c'est de créer une confiance mutuelle. Il se peut aussi que des fois, on sente dès le départ que des personnes on se dit ça va peut-être pas forcément bien passer. Donc voilà, notre sélection passe aussi par ça. Forcément, c'est important de se projeter aussi dans l'avenir, parce que on peut pas s'engager dans quelque chose si nous-mêmes, on n'est pas forcément sûr à 100%.
Bien sûr, c'est une relation de confiance et j'imagine, on l'espère, sur la durée aussi. Donc, c'est très important de prendre le temps dès le départ, de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'il y a un certain feeling et qu'on imagine les choses de la même manière, surtout.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est important de se rencontrer, d'évaluer la confiance mutuelle, en plus de voir le logement de soi-même, c'est sûr.
Et en général, à quel stade de leur projet les propriétaires ils te contactent ? Est-ce que là, tu l'as dit, tu vas rentrer et qu'ils sont en travaux, donc j'imagine qu'on t'appelle très tôt, en fait, dans le projet ?
Oui, tout à fait. En fait, ça dépend vraiment. J'ai des personnes qui m'appellent. En effet, ils sont en train de terminer les travaux. Ils vont avoir besoin de quelqu'un très rapidement parce que l'été arrive. Donc ça, c'est un stade des projets pour lesquels on contacte notamment actuellement. Sinon, il y a aussi, dès le début du projet, c'est-à-dire que des propriétaires ont déjà des logements. Et ils souhaitent les transformer en location saisonnière. Et donc là, c'est un accompagnement beaucoup plus de conseils, de comment les aider dans justement cette transformation en location saisonnière, si avant c'était soit leur résidence principale ou des locations à l'année. Et nous avons aussi des personnes qui souhaitent changer de conciergerie, donc qui sont déjà soit avec quelqu'un qui faisait juste la remise des clés, le ménage, et ils veulent passer maintenant à une gestion beaucoup plus complète, comprenant du coup la gestion des annonces, soit ils étaient dans une gestion aussi d'annonces, soit localisée sur place qui leur convenait pas, soit des gens qui travaillent sur toute la France et du coup il n'y avait pas ce contact vraiment humain. Donc il y a aussi des personnes pour lesquelles la confiance et la reconnaissance se sont installées un petit peu au fil du temps, qui me contactent parce qu'elles me suivent depuis le tout début de l'aventure sur les réseaux sociaux et qui voient que que ça se passe bien avec les logements gestion, que de nouveaux logements rentrent, et là elles se disent c'est peut-être le moment de contacter Thaïs. Voilà, donc plusieurs stades pour la prise de contact.
On peut, si on te démarche, est-ce que tu peux mettre en relation avec des clients que tu as déjà pour pouvoir avoir leur ressenti et leur témoignage sur la collaboration ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de faire intervenir une des propriétaires avec lesquelles je travaille pour un reportage qu'on avait fait sur la télévision. Et bien sûr, les propriétaires, je pense à quelques-uns qui seraient ravis d'échanger un petit peu sur tout ça. C'est vrai que de déléguer la gestion, les logements qu'on met en gestion, chambre d'hôte, gîte, c'est un peu nos petits bébés, je suppose. Donc, c'est vrai que déléguer au début pour certains propriétaires, je l'ai senti, c'est pas évident, forcément. Mais on leur laisse aussi le temps et puis on leur montre qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Et au fur et à mesure des mois, ça se passe très bien.
Et justement, je me demandais, est-ce qu'on peut proposer un accueil personnalisé lorsqu'on le confie à une conciergerie ?
L'accueil personnalisé, ça passe à travers plusieurs choses. Parce que les gens veulent à la fois un accueil personnalisé et être aussi autonome, par exemple, pouvoir arriver tard le soir. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec les boîtes à clés, parce qu'en termes de gestion, c'est pas possible d'être présent sur tous les logements à la même heure, notamment, je vois le dimanche où tout le monde part à 11h. Donc, on tourne en fonction des logements, on tourne avec les boîtes à clés. Forcément, on a une attention particulière avec des personnes qui pourraient être moins à l'aise avec les arrivées et les départs autonomes et qui nous demandent si on peut être présent. Ça, bien sûr, on s'arrange pour le faire. Mais il faut savoir que l'accueil personnalisé passe aussi par d'autres choses. Donc, par exemple, ça passe par le petit mot d'accueil manuscrit qu'on laisse dans les logements. On laisse aussi un guide détaillé du logement qui donne toutes les indications pour le bon fonctionnement du logement. Ça peut passer aussi par un petit panier de bienvenue. Donc, nous, ici en Normandie, on aime laisser, des fois une petite bouteille de cidre. Ou alors là, avec certains propriétaires, on travaille avec une entreprise qui fait des tartinables de la région. Et ça peut passer aussi par le guide touristique qu'on laisse dans chaque logement. Donc, moi, j'ai réalisé un guide d'une vingtaine de pages avec mes bonnes adresses, les bonnes adresses de la conciergerie pour nos petits lieux pépites, pour bien manger, pour boire un verre avec une vue sympa. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est de rappeler que c'est moi qui suis en contact constant avec les voyageurs avant, pendant et après leur séjour. Et ils savent qu'ils peuvent m'appeler à tout moment. S'ils ont un problème, ils m'appellent en direct. C'est aussi le but de la conciergerie, c'est d'être très disponible. Donc, c'est à travers tout ça que peut passer l'accueil personnalisé. C'est pas que être présent sur place pour les arrivées et les départs.
Bien sûr. Et en plus, ils ont une seule interlocutrice, donc c'est très rassurant aussi.
Tout à fait. Et puis vraiment, ils m'appellent. Enfin, on communique beaucoup sur le téléphone. Ils peuvent m'appeler, ils ont mon numéro. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu des voyageurs qui m'ont appelé car ils n'arrivaient pas à mettre en marche la télé. On est vraiment à côté d'eux tout au long de leur séjour. Des fois même, ils nous appellent pour nous dire dans les recommandations de restaurants que vous nous avez mis, lequel est celui que vous préférez. Donc c'est des petites choses comme ça qui nous font aussi plaisir parce que c'est aussi un contact autre que de leur donner le code de la boîte à clé, de leur expliquer le logement.
Bien sûr. Et j'ai vu d'ailleurs que tu parlais plusieurs langues. Donc, en plus, tu peux t'adapter aux différentes nationalités.
Tout à fait. Alors, nous, c'est vrai qu'entre la baie de Somme et la Normandie, on a beaucoup de voyageurs anglais, anglo-saxons, belges, allemands, des Pays-Bas. Alors, malgré mes 6 ans d'allemand, j'ai beaucoup de mal en allemand. Donc, heureusement, je parle couramment anglais, je parle couramment espagnol aussi. Et j'ai des très bonnes bases en portugais. Mais c'est vrai que l'anglais, c'est la langue de prédilection pour les voyageurs étrangers. Ça, je pense que c'est aussi très important parce qu'il y a des personnes qui... Même, des fois, avec des voyageurs qui ne parlent pas anglais, du coup, j'utilise Google Traduction. Mais c'est bien quand même d'avoir des bases en langue étrangère, forcément.
Tout à fait. On m'envoie souvent des petits messages en me disant « Laura, fais-nous un petit e-book avec des traductions et autres parce que l'anglais est trop vieux et il faut qu'on se remette à la page.
» C'est sûr, franchement, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que d'avoir les phrases un peu standards d'accueil, de remerciement pour les réservations, nous, c'est aussi l'avantage qu'on a. Les conciergeries comme moi qui travaillent avec des logiciels de gestion, qu'on appelle des channel managers, ça nous permet de mettre en place des messages automatiques de confirmation de réservation et d'accueil dans la langue des voyageurs. C'est-à-dire que même si je ne parle pas allemand, je sais que mes voyageurs vont recevoir un message en allemand pour leur confirmer leur réservation.
Génial. Donc
ça aussi, ça les rassure.
Et c'est quel logiciel que tu utilises justement ?
Alors moi, à titre personnel, j'utilise Logify.
D'accord.
Mais je sais qu'il existe de nombreux channel managers. Il y en a vraiment plein. Enfin, franchement, après, c'est faites un conseil, faites des tests. Voyez celui qui vous correspond le plus et vous pouvez quand même changer d'une année sur l'autre. Moi, j'ai pris un abonnement annuel. Donc, c'est vrai que je ne pourrais pas changer comme ça d'un mois sur l'autre, mais d'une année sur l'autre, on peut totalement changer de logiciel.
C'est un très bon conseil, effectivement. Je le dis aussi, au-delà des différents paramètres et fonctionnalités que chaque channel pourra offrir, il faut surtout demander les démos et voir un petit peu à quoi ressemble le tableau de bord, voir si ça vous fait peur, si vous trouvez qu'il y a une certaine logique et si voilà, c'est facilement... si vous pouvez facilement le prendre en main.
Tout à fait, oui.
Parce que vous serez amené à y travailler tous les jours. Donc, il ne faut pas s'arracher les cheveux juste pour changer une date, ouvrir un minimum de nuitées, des choses comme ça. Sinon, ça va être horrible, quoi.
Oui, et puis c'est surtout, je sais que moi, avec Logify, il y a un système de onboarding. En fait, c'est des formations de mise en route quand on s'inscrit. Ils nous suivent après sur plusieurs rendez-vous pour justement nous montrer comment fonctionne le logiciel, chaque petite chose, chaque petit détail, et puis on peut les contacter si on a un problème. Donc c'est vrai que ce logiciel, pour moi, est pas mal.
Et le SAV, il est en français ou en anglais ?
Le SAV est principalement en anglais. Ils essayent des fois de nous répondre en français, mais quand on appelle par téléphone, souvent on nous répond en anglais.
D'accord.
Ça, c'est aussi important de savoir si des personnes sont moins à l'aise avec l'anglais, par exemple.
Tu références les différents hébergements sur combien de plateformes de réservation ?
Alors moi, aujourd'hui, je travaille avec donc Airbnb, Booking, Abritel et le site de la conciergerie des Trois Villes Sœurs. Je sais qu'il y a des gestions de location qui se mettent sur tous les sites. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux proposer un service qualitatif sur moins de plateformes et vraiment travailler le taux de remplissage sur ces plateformes-là. Plutôt que de travailler avec 10-15 plateformes de réservation, se perdre dans les tarifications, se perdre dans les réponses voyageurs. Et voilà. Il vaut mieux travailler avec moins, mais mieux, qu'avec plus et moins bien. En tout cas, à titre personnel, voilà, je travaille avec ces principales plateformes de réservation en ligne.
Et comment tu construis la future grille tarifaire ? Est-ce que c'est en accord avec les propriétaires ? Est-ce que c'est toi qui fais toute une étude de marché ? Comment ça se passe ?
Les deux. Je te dirais les deux. Donc en fait, j'ai des propriétaires qui me laissent totalement carte blanche pour les tarifs. Je leur fais quand même une estimation, je leur fais une étude de marché très approfondie de toute façon pour chaque logement. Et j'ai d'autres propriétaires qui me disent « Bon, ben nous, on avait pensé à ça comme tarif, est-ce que ça vous paraît cohérent ?» Donc là, voilà, c'est vraiment l'accompagnement personnalisé propriétaire par propriétaire. En tous les cas, moi, au début de la gestion, je leur fais en effet une estimation locative de moyenne à l'année, le taux d'occupation moyen sur leur secteur et les tarifs qu'on pourrait espérer sur l'été et sur la saison un peu plus creuse. Et après, voilà, ils me donnent carte blanche pour gérer tout ça en fonction du taux d'occupation. Ça nous permet potentiellement de proposer des tarifs de dernière minute, par exemple, si on voit que le logement en début de semaine n'est pas réservé pour le week-end qui arrive. Donc c'est vrai que voilà, on se met d'accord avec eux sur un tarif
de base
moyen, c'est ça, de base. Si jamais on voit que ça fonctionne pas ce tarif là pour x y raison, ça peut être par exemple si on l'a mis un peu trop tard sur les plateformes, par exemple par rapport à la période estivale, il n'y a pas assez de commentaires, donc là il faut essayer de le remplir un maximum. Donc on s'appelle et on refait un point sur les tarifs, on convient ensemble si ça leur va de baisser un petit peu le tarif et pour l'augmenter potentiellement plus tard.
Donc, tu fais vraiment une stratégie de revenu management au quotidien sur l'ensemble des établissements.
Ah oui, tout à fait. J'utilise moi des petites choses de yield management, de revenu management. Regarder toujours comment évoluent les tarifs de la concurrence, comment se situent les tarifs du logement par rapport aux autres établissements du secteur, par rapport à la saison. Voilà, si on voit qu'il y a un logement... maintenant aussi, l'avantage d'avoir plusieurs logements et un petit peu de recul, c'est qu'on se dit « ce logement est similaire à celui-ci en termes de capacité et de localisation. Pourquoi il se loue moins bien ? » Et donc là, on va voir, peut-être que c'est des petits mots dans la description, peut-être que c'est une promotion pour essayer de le remettre en avant parce qu'il a moins de commentaires. L'idée, c'est de se dire que pour les propriétaires, nous, on va tout faire pour que le logement soit le plus visible possible et que le tarif soit le plus juste possible.
Est-ce que tes propriétaires ont aussi leur propre site internet ?
Alors, oui, j'ai des propriétaires qui ont leur propre site internet, leur propre page Instagram. J'en ai d'autres, pas du tout. En fait, ça peut être totalement compatible. Moi, les propriétaires qui ont leur site Instagram, ils les renvoient les voyageurs qui souhaitent rester chez eux vers notre page de réservation de la conciergerie des Trois Villes Sœurs. C'est des réservations directes, en fait. C'est exactement le même fonctionnement que si les gens pouvaient réserver sur le site internet des propriétaires. C'est pareil, donc c'est absolument pas incompatible.
Génial. Et au niveau de la tarification, donc tu prends une commission sur les revenus selon l'offre qu'ils auront choisie, on va le détailler juste après. Mm-hmm. Mais tout ce travail de création de leur fiche sur ton site internet, la création des annonces, le référencement et la construction de la tarification, en quelque sorte, tu l'offres puisqu'après, tu ne te rémunères que dès qu'il y a des locations.
C'est ça. Alors, actuellement, parce que forcément, quand on lance une entreprise, oui. On voit ce qui va un peu moins bien et puis on affine. Donc là, je suis en train d'affiner justement tout ça. Mais actuellement, tout à fait, je les accompagne sur différentes prestations. Le service est très complet. Je les aide dans l'estimation locative, la gestion du ménage. Je les aide également du coup avec la création et l'optimisation des annonces pour leur garantir une bonne occupation et c'est vrai que voilà, une fois qu'il y a des réservations, les premières factures sont établies. Ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel pour nous est payant, donc c'est en train d'être affiné. Je pense que ce qui va être mis en place, c'est qu'on demandera quand même un règlement au préalable au moins pour la gestion du logiciel, du channel manager, et après les commissions sur les réservations. Si tu veux, actuellement, c'est vrai que c'est la conciergerie qui avance les frais pour la mise en gestion avec le logiciel, et ça, c'est quelque chose, avec du recul, je me dis, c'est pas forcément incohérent de demander quand même ces frais de première mise en gestion.
Bien sûr, comme des frais d'inscription.
Exactement,
tout
à fait. Oui.
Et justement, j'en ai parlé juste avant, il y a plusieurs offres. Moi, je pense à deux de tes offres. Est-ce que tu peux nous les détailler ?
Bien sûr, moi j'ai différents types de gestion, donc différents types de packs de gestion, avec plus ou moins d'options. En moyenne, pour des services de conciergerie, il faut compter entre 20 et 30% de commission sur les réservations. Moi, actuellement, je propose deux types de packs, donc le pack gestion qui comprend la création de l'annonce, l'estimation locative, la gestion du ménage, donc également la tarification intelligente, comme on appelle ça, les guides touristiques, le guide pour le logement. Donc ça, c'est le pack gestion qui est autour d'une vingtaine de pourcents de commission sur réservation. Et après, il y a le pack un petit peu plus complet, donc qui reprend le pack de gestion. Ce pack s'appelle le pack tout compris et on a en plus la possibilité de mettre en place les paniers de bienvenue et de s'occuper pour les propriétaires notamment qui ne sont pas sur place du réapprovisionnement de produits de première nécessité comme pourrait être qu'il y ait toujours des sacs poubelles, du papier toilette. Après, c'est des petites choses qu'on propose à la carte aussi. C'est-à-dire que si les propriétaires veulent partir sur le pack donc de gestion de base, on peut leur proposer à une certaine période de l'année de leur trouver des paniers de bienvenue parce que forcément, nous, on a des tarifs préférentiels avec certaines entreprises. Ou par exemple, s'ils ne sont pas sur place pour x, y raison, qu'ils nous disent Thaïs, on ne peut pas s'occuper de racheter du papier toilette, est-ce que vous pouvez vous en occuper pour nous ? Eh bien, il n'y a pas de souci, moi, je m'en occupe et puis je leur fais facturer à part. Donc, c'est des petites choses qu'on peut mettre vraiment à la carte. C'est très personnalisé en fonction des propriétaires.
Et chaque propriétaire peut se bloquer des dates pour sa venue personnelle ?
Oui, tout à fait. Franchement, on n'impose pas actuellement, en tout cas, de dates bloquées. On ne leur dit pas, il faut au moins qu'on ait un mois sur deux l'été. Non, les propriétaires peuvent bloquer à tout moment des dates pour leur famille, pour leur venue. Mais pareil, comme je te disais, c'est des choses qui sont en train d'être affinées. Peut-être qu'on leur dira à l'avenir, vous pouvez bloquer maximum 2 semaines d'affilée sur la période estivale. Sinon, il faudra voilà, mettre en place un autre système,
bien sûr,
qu'on ne soit pas forcément non plus perdant, parce que c'est vrai que des propriétaires qui bloquent un mois complet sur le mois d'août, avec du recul, on se dit mince.
Ben oui, c'est ça, tu engages des frais, mais là, il n'y a pas de retour sur investissement pour le coup.
Exactement, exactement. Donc, comme je te disais tout à l'heure, et il ne faut pas avoir peur de ça non plus, c'est d'affiner un petit peu son offre. Forcément, les propriétaires avec qui j'ai déjà des contrats depuis le début, je ne vais pas leur faire d'avenant sur le contrat. Du moins, pas d'ici la fin de l'année, pour leur laisser au moins une année complète. Et puis, quand on réactualisera les contrats, bah là, on rediscutera des conditions générales ensemble.
Bien sûr. Comment s'organise la collaboration? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un système de points hebdo avec les propriétaires, ou c'est vraiment par des échanges d'e-mails ou de téléphone quand il y a un besoin, quand il y a une question?
Alors, comment fonctionne, pour t'expliquer vraiment la collaboration du début à la fin? Il y a une première prise de contact qui est faite par téléphone ou via les réseaux sociaux pour cibler leurs attentes et leurs besoins. Dans un deuxième temps, on fait un échange par mail. Voilà, je leur demande de m'envoyer quelques photos et un bref descriptif du logement. Ça me permet déjà de voir au préalable si ça pourrait dans un premier temps correspondre avec ce qu'on a en gestion. Ensuite, si ça correspond, on organise une rencontre. Donc, on en profite pour faire la visite du bien. Les propriétaires m'expliquent un peu plus en détail leurs attentes, pourquoi ils seraient potentiellement intéressés par des services de conciergerie. C'est vraiment important de se rencontrer justement pour définir tout ça. Et puis, ça peut aussi également s'accompagner de quelques petits conseils sur l'aménagement et les équipements phares, ou leur expliquer exactement comment fonctionne la gestion du linge. Le but, c'est vraiment de faciliter le démarrage, la mise en location pour les propriétaires. Ensuite, on organise un nouveau rendez-vous où là, vraiment, on parle du rétro-planning, de savoir quand est-ce qu'ils veulent réellement commencer la mise en location, les semaines qu'ils veulent bloquer pour leur venue personnelle. Et on fait donc la signature de contrat. Et moi, derrière, je viens prendre les photos et prendre des notes pour établir au mieux l'annonce, pouvoir rédiger au mieux l'annonce sur les différentes plateformes. Et j'organise aussi une visite avec la personne qui sera en charge de l'entretien, pour revoir les points clés de la maison, de l'appartement, revoir ce qui est important. Voilà, chaque logement a sa spécificité, donc c'est même très important que la personne qui sera en charge de l'entretien puisse en avoir connaissance. Après, moi, de mon côté, donc, je rédige et je mets en ligne les annonces. Et avant la première location, je fais un dernier check du logement. Pour ce qui est de la communication avec les propriétaires, pareil, ils peuvent m'appeler ou m'envoyer des mails quand ils le souhaitent. On peut être amené à se revoir de temps en temps s'ils veulent modifier certaines choses. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que les propriétaires qui font appel à nos services de gestion, c'est souvent des propriétaires qui veulent se libérer du temps pour eux. Donc, pas forcément de rendez-vous hebdomadaires ou de rendez-vous mensuels. Parce que c'est des personnes, s'ils délèguent, c'est pour avoir une charge mentale en moins. Et on évite au plus de les déranger, ou alors quand on a des petits doutes, moi je les appelle quand même forcément. Mais c'est vraiment à eux de venir vers moi s'ils ressentent le besoin de revoir certains points, ou d'être assurés, ou d'avoir des conseils sur d'autres points. Moi je ne leur impose pas du tout de rendez-vous. L'idée, c'est qu'ils délèguent, ils se soucient de rien, et s'ils ont un doute, ils m'appellent.
Très bien, d'accord. Et pour le linge, donc tu as aussi de l'aide pour la gestion du linge,
oui.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est le stock des propriétaires? Est-ce que c'est un système de location?
Ça dépend des propriétaires, vraiment. J'ai des propriétaires qui travaillent avec une entreprise qui vous loue du linge, une grande entreprise qui doit être connue, des propriétaires de chambres d'hôtes qui nous déposent le linge une fois par semaine, et on leur remet le linge sale dans un sac, et voilà, ça c'est une gestion externe. Après, on a une gestion avec, on a un partenariat avec un service de pressing à la ville 2 avec lesquels on travaille. Donc les personnes en charge de l'entretien déposent le linge, elles définissent avec le pressing d'une date pour récupérer le linge, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les draps des propriétaires. Aussi, pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que chaque logement est unique, en fait, et a sa personnalité. Et donc, moi, je ne veux pas imposer aux propriétaires du linge blanc, par exemple. S'ils veulent avoir du linge qui leur correspond, coloré ou avec des motifs, c'est leur choix. Et du coup, nous, on travaille avec ce linge-là. Par contre, s'ils nous demandent un système de location de draps, là, on les renvoie vers l'entreprise bien connue.
Est-ce que ce sont tous des logements qui sont classés ?
Alors non, pas forcément. Hein. On a des propriétaires qui souhaitent mettre en location que sur la période estivale, par exemple. Et donc, eux ne voient pas forcément l'intérêt de le faire classer. En fait, le faire classer, c'est d'un point de vue taxe de séjour que c'est intéressant.
Oui.
Donc, non, pas forcément. Il y a quelques logements, pas beaucoup, mais qui ne sont pas classés. Dans tous les cas, tous les logements sont bien déclarés en mairie, ça c'est sûr.
Tu veux vraiment rester basé sur les trois villes sœurs ou tu penses peut-être élargir avec le temps?
Alors moi, actuellement, je suis quand même sur un périmètre de 40 km autour des trois villes sœurs. C'est-à-dire que je travaille aussi autour de Saint-Valery-sur-Somme et je travaille aussi autour de Dieppe, en plus des trois villes sœurs. Donc sur ce rayon-là, je n'ai pas forcément pour ambition de continuer de m'étendre actuellement parce que l'entreprise n'a que environ 6-7 mois. Par contre, à l'avenir, si je suis amenée à recruter, et c'est ce que j'espère, oui, pourquoi pas étendre les services, monter, pourquoi pas jusqu'au Touquet, redescendre un petit peu plus. Mais actuellement, comme je suis seule, non. Et par contre, à partir de septembre, j'ai la chance d'avoir une alternante qui va arriver.
Génial.
Une personne que je vais pouvoir former pendant 2 ans, si tout se passe bien, je pourrais potentiellement lui proposer de rester derrière. Donc voilà, c'est... L'idée, c'est de bien être accompagné pour pas partir dans tous les sens et bien définir, y aller petit à petit dans un premier temps. Et puis, mais moi, si j'ai créé la Conciergerie des Trois Villes Sœurs, c'est pas une auto-entreprise, c'est une SARL. Et c'est parce que j'ai l'ambition de recruter et d'avoir vraiment une entreprise qui se développe.
Bien sûr.
Donc oui, je pourrais être amenée à me développer.
C'est tout le mal qu'on te souhaite.
Exactement, moi aussi.
Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être en train de se lancer à quelques semaines ou mois d'ouverture et autres, est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner ?
Oui, alors pour les porteurs de projets, de chambres d'hôtes, de gîtes, etc., dans tous les cas, un conseil commun, c'est de bien travailler son business plan. Je pense qu'il ne faut pas, parce que j'en vois, des personnes qui se lancent, qui achètent en résidence principale et qui après s'étonnent parce que je leur dis qu'ils ne peuvent pas louer plus de 120 jours par an. Ça arrive, c'est vraiment bien se renseigner, bien travailler, construire son business plan, avoir conscience de la concurrence et des tarifs appliqués. Pas partir dans des tarifs non plus trop délirants parce qu'il y a des personnes qui se calquent sur des tarifs de logements qui sont déjà présents depuis plusieurs années. Je veux dire, l'offre de départ ne sera pas celle que vous aurez quand vous vous développerez. Forcément, ça va également s'affiner. Donc voilà, c'est bien établir sa clientèle cible aussi. Quelles sont les personnes qui seraient susceptibles de venir dans mon logement ? Donc voilà, son business plan, premier conseil, très 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 important. Conseil, c'est rencontrer et s'entourer d'un expert comptable parce que il y a différents types de régimes qui peuvent être appliqués. Je pense que ça, vous le savez aussi. Comme je disais, savoir si vous êtes en résidence principale ou si c'est un achat en résidence secondaire, vous n'allez pas pouvoir louer pareil votre logement.
Il y a tout l'aspect fiscal aussi selon le statut qu'on choisit.
Le statut, si vous êtes en régime réel, régime simplifié, enfin, il y a tellement de particularités aussi par rapport à vos revenus, en fait, l'idée, c'est que ça soit intéressant pour vous fiscalement. Donc, expert comptable primordial aussi. Forcément, c'est un coût, mais...
C'est un investissement pour moi. C'est vraiment indispensable.
Ah oui, pour moi aussi, ça peut éviter de faire des bêtises, entre guillemets. Et puis aussi, se rapprocher de la mairie impérativement et de l'office de tourisme pour connaître vos devoirs en termes d'immatriculation et de reversement de taxes de séjour. Pas avoir de mauvaises surprises au moment du reversement de la taxe de séjour.
Mais oui, et je dirais même pour être aidée aussi, tu vois, même sur la partie études de marché, parce que la mairie et encore plus l'office de tourisme vont pouvoir vous donner quelques datas, quelques conseils aussi sur votre positionnement.
Oui, tout à fait. Oui, exactement. Aussi sur le taux d'occupation.
Voilà.
En fonction des villes, le taux d'occupation n'est pas le même.
La saisonnalité n'est pas la même.
Voilà. Ouais. Le nombre de couchages, entre guillemets, moyen, qui est le plus réservé sur le secteur, c'est aussi intéressant. Savoir si on se lance plus sur une location, si on fait plus deux appartements ou alors une grande maison, par exemple.
Oui, super. Excellent conseil que je valide parce que je les partage vraiment.
Bon, bah, c'est top alors. Oui, bah, c'est vraiment des choses qui me paraissent primordiales. Bah, aussi parce que de notre côté, comme je te disais au début, mon conjoint est passé par là pour sa maison qu'il veut mettre un petit peu en location. Donc, c'est vrai que quand on se met dedans, on se rend compte des choses. J'aurais bien aimé qu'on me dise ça au début. Et d'où l'intérêt d'avoir ton podcast aussi, c'est qu'en fait, ça nous permet d'échanger bah, voilà, avec les futurs porteurs de projets autour de ça.
Bah, c'est vraiment toute mon intention et l'ambition du podcast et puis plus largement de la plateforme, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas cette fameuse phrase à la fin, oh, si j'avais su.
C'est exactement ça. Non, mais ça permet de gagner du temps, comme on dit.
Voilà, exactement. Quelles sont les personnes et les clients qui sont susceptibles de faire appel à une conciergerie?
Eh bien, écoute, dans mon cas personnel, 80% des propriétaires qui font appel à moi sont des personnes qui n'habitent pas sur le secteur. Donc, des personnes qui habitent ben, un peu partout en France, qui ont investi dans le coin parce qu'ils aimaient beaucoup la région. De Paris, de Belgique, même de Reims, par exemple. J'ai aussi ben, des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Et oui, il y a aussi ce genre de personnes.
Ça existe encore? Non,
Et
je...
oui, mais si, franchement, j'en ai hein, qui me disent ça me paraît trop compliqué, les plateformes de réservation, j'y comprends rien. Voilà, donc ça, c'est aussi notre profil de clientèle cible. Et comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui n'ont pas le temps, qui veulent se libérer du temps, dont la principale raison pour déléguer, c'est vraiment d'avoir une charge mentale en moins. Parce qu'il faut savoir que les voyageurs nous contactent n'importe quel jour. Week-end, pas week-end, matin, soir, nuit, enfin voilà, les réservations se font aussi à n'importe quel moment. Donc après, il faut bien s'organiser avec les personnes en charge du ménage. Donc voilà, c'est vrai que les clientèles sont un peu variées, mais le point commun, c'est vraiment déléguer pour avoir ça en moins à s'occuper. Forcément, les frais de gestion ont un coût, mais au même titre que les frais de réservation des plateformes ont un coût. C'est-à-dire que si les personnes mettent leurs biens sur une plateforme de réservation, elles payent un certain pourcentage déjà sur Airbnb, sur Booking. Et le fait de le mettre en gestion, l'idée vraiment pour les propriétaires, c'est de se dire que la conciergerie va les aider à optimiser et avoir une meilleure rentabilité. Donc en fait, les coûts qu'ils auraient sur la conciergerie, déjà, ça rentre dans leur charge. Donc potentiellement, ça peut leur permettre d'équilibrer leurs chiffres à la fin de l'année par rapport à sinon à ce qui serait redevable en termes d'imposition. Et d'autre part, c'est voilà, de les aider à avoir une meilleure rentabilité, à gérer au mieux et d'avoir potentiellement plus de revenus. Donc en fait, dans tous les cas, oui, ils seraient gagnants.
Tout à fait. Ça, c'est tout bénef.
Et ben oui, et c'est ce qu'on voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, c'est pour les aider dans cette démarche-là. Et si je peux me permettre, je voulais juste ajouter quelque chose parce que c'est vrai que des fois, ça peut être confus dans la tête des propriétaires. En fait, on appelle conciergerie différents types de prestations. On va voir les conciergeries, des personnes auto-entrepreneurs qui vont s'occuper que du ménage et de la remise de clés. Ça, c'est une chose. C'est un type de conciergerie. Et on va avoir la conciergerie qui est vraiment de la gestion de location saisonnière, comme c'est proposé par la conciergerie des Trois Villes Sœurs. C'est-à-dire que nous, on s'occupe vraiment de tout, des annonces, chose qui n'est pas faite par ces autres personnes qui sont auto-entrepreneurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est du coup amenés à travailler avec ces personnes auto-entrepreneurs qui se font appeler aussi conciergerie. Je ne sais pas si c'est très clair. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'entreprise, pour la gestion du ménage, on passe par des auto-entrepreneurs. Donc, ils peuvent déjà avoir la dénomination de conciergerie. Ce n'est pas du tout de la concurrence déloyale, en fait. Et ça, c'est très important de le souligner. Parce que, voilà, moi, je sais que j'ai eu le cas quand je me suis lancée. On m'a dit, ah, mais il y a déjà telle personne qui est une conciergerie. Je disais, mais oui, non, cette personne-là s'occupe que du ménage et de la remise des clés. Moi, ce n'est pas du tout ça que je propose. Voilà, c'est vraiment bien se renseigner aussi sur les différents types de prestations qui peuvent intéresser les propriétaires. Est-ce que c'est juste délégué le ménage et les remises de clés, ou alors est-ce que c'est vraiment tout délégué?
D'accord, oui, c'est très clair. Merci beaucoup de la précision. On arrive à la conclusion de cet très agréable échange. Tu le sais, j'ai quelques petites questions plus personnelles. La première étant,
Oui.
quelles sont tes vacances idéales?
Ah là là, mes vacances idéales. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une fille du soleil.
Mais qu'est-ce que tu fais là-haut alors ?
Mais voilà, mais vous savez qu'il fait très beau en Normandie. Non, mais tout le monde me dit ça. On n'a pas que de la pluie en Normandie. Non, mais alors pour moi déjà, les vacances idéales, c'est pouvoir déconnecter. Ouais. Chose qui n'est pas là de se faire, mais c'est un choix personnel.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que là, les futures vacances, c'est pas pour toi.
Tout à fait, et être au soleil idéalement, voilà, pouvoir s'allonger avec le bruit des cigales, pour moi c'est le paradis, entendre le bruit de la mer. Je suis aussi une fille du littoral, hein. Moi il faut que je m'approche de la mer. C'est vrai que d'avoir été 2 ans à Paris, ça a été un peu compliqué, donc là le retour en bord de mer, je suis ravie, voilà, et pouvoir bien manger tout en étant dans un beau cadre. C'est d'ailleurs la chance qu'on a ici, c'est qu'on est en bord de mer, on a une gastronomie qui est riche, j'adore les fruits de mer, on a des paysages variés, on a les falaises, les prés salés de la baie de Somme. Donc voilà, c'est aussi ce que j'apprécie d'être venue vivre ici, c'est qu'au final, on peut se sentir rapidement en déconnexion. Même si, voilà, un petit peu de chaleur en plus, je dirais pas non.
Oui, j'avais vu une petite expression qui me plaît beaucoup, c'était « habiter en vacances ». Et je trouve ça juste génial, parce que c'est vraiment ça, en fait. Et je trouve que c'est ce que tu as décrit, c'est vraiment retrouver dans son quotidien plein de choses qui font qu'on a l'impression de s'évader, quoi.
Mais tout à fait. Et puis aussi, ce qui est super chouette, c'est que quand on est en contact avec les voyageurs, c'est de voir à quel point ça leur procure un moment de déconnexion de venir en vacances dans notre région, quoi. Mmh. Et donc, au final, nous, on revit ça aussi à travers eux. Donc ça, c'est aussi super chouette.
Ah oui, j'imagine. À quel détail tu es attentive lorsque tu séjournes à l'extérieur ?
Oh, alors moi déjà, premier détail, c'est la construction des annonces, les photos. Ça va me faire aller ou non dans un logement. Non, mais c'est
vrai. Ah ouais, d'accord.
C'est super important. Les commentaires, ça forcément.
Bien sûr.
Et puis après, une fois qu'on réserve, c'est le premier contact. C'est-à-dire, voilà, le message de bienvenue, les informations qui nous sont données. Et puis, une fois que j'arrive sur place, directement, la propreté, la base.
Bien sûr.
Et les équipements proposés.
D'accord.
Voilà.
Je suis d'accord avec toi, effectivement, sur le côté premier contact aussi, où ça m'est arrivé d'avoir besoin d'envoyer je ne sais pas combien de mails pour avoir à chaque fois une réponse approximative, rien n'est donné pour vraiment préparer son séjour dans les meilleures conditions, quoi.
Oui, non, et puis une petite, c'est ce que je disais tout à l'heure, un petit message personnalisé, une petite attention. Quand on arrive dans le logement, un petit mot d'accueil. Tu vois, j'ai séjourné il n'y a pas très longtemps, on est allé pour un événement avec des amis dans les Pouilles, en Italie, dans le sud de l'Italie. Et on avait loué donc une location, un gîte magnifique d'ailleurs. Et le propriétaire ou la femme de ménage, je ne sais pas, la personne en charge de l'entretien, nous avait laissé un message, un petit mot sur une ardoise. Bienvenue à Thaïs et à ses amis, et passez un super séjour. Et ça, c'est génial. Ça donne le sourire à peine on arrive.
Mais oui, ouais. C'est des petits détails qui font toute la différence.
Tout à fait.
Dans quel établissement t'aimerais aller séjourner le temps d'un week-end ?
Ah là là, quelle question !
Il y en a tellement.
Oui, c'est ça, il y en a tellement qui ont l'air géniaux, déjà, que j'ai pu aussi écouter à travers tes podcasts. J'aimerais beaucoup séjourner, et d'ailleurs, si les propriétaires m'entendent, n'hésitez pas à me contacter, à Métaphore. Donc, vous pourrez aller regarder Métaphore. Super. En Provence. C'est un gîte entre le Mont Ventoux et le Luberon. Ils ont une piscine avec une vue à couper le souffle, vraiment entre les montagnes, avec un mur un peu comme un reste de ruine. Et surtout, ils ont une chambre avec, en fait, je ne sais pas si tu vois, c'est un lit sur des rails qui te permet de faire sortir le lit sur la terrasse et de re-rentrer. Donc, en fait, si tu veux, tu peux faire les petites siestes à l'extérieur ou t'endormir à la belle étoile et re-rentrer après dans la chambre. Et tu as une vue panoramique superbe. Ah ouais, ça me donne trop envie.
Ah oui, mais tu m'étonnes, ça donne envie à tout le monde. C'est incroyable. Ouais.
Et pour le côté un petit peu plus sauvage, ça c'est mon petit rêve à moi, c'est d'aller séjourner en Toscane. En Italie, ils ont quelque chose qui s'appelle, un système qui s'appelle Agriturismo. En fait, c'est une plateforme de réservation dans des fermes, dans des domaines viticoles. Et on est vraiment chez l'habitant. Ils proposent des activités, tu vois, de faire un plat italien, d'aller faire une dégustation de vin, de faire une découverte des vignes. Tu peux aussi louer des petits scooters pour te promener dans les vignes. Enfin voilà, ça c'est un de mes rêves aussi. J'espère pouvoir le réaliser très bientôt. Mais voilà, séjourner chez des habitants en Italie, ça me donne très envie.
Ah bah oui, tu arrives à nous donner envie aussi. Hein. Super. Bah écoute, Thaïs, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour tous tes conseils et pour nous permettre d'y voir plus clair, avec le monde de la conciergerie. Et puis, très bonne continuation. À très bientôt, j'espère.
Merci beaucoup Laura en tout cas de m'avoir laissé cette opportunité d'échanger sur le nouveau métier entre guillemets de conciergerie, et puis à toutes les personnes qui nous écoutent et qui auraient besoin de conseils, et ben voilà, n'hésitez pas à me contacter sur notre page Instagram ou Facebook, je serai ravie d'échanger avec vous. Et Laura, j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger très prochainement. Merci à toi.
Faut pas partir comme ça. Avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram. Promis, maintenant j'arrête de parler.